Nous retrouvons notre ami Yvan, le manchot, qui est donc toujours dans l'auberge, en train d'essayer d'ouvrir sa porte. Oui, il est là, essayer d'user aussi habilement que possible de ses mâchoires et de sa langue pour essayer de faire pénétrer la clé dans la serrure et ensuite de la faire tourner pour que la porte s'ouvre et qu'il puisse enfin aller se reposer dans un lit moelleux. Et alors qu'après de nombreux essais infructueux, il allait enfin réussir à faire pénétrer la clé dans la dite serrure, un bruit se fit entendre. Eh oui, le jour se levait. Notre ami Yvan avait passé la nuit à essayer d'ouvrir la porte et sans y réussir. Et maintenant que le jour était levé, il allait devoir reprendre sa route et repartir donc vers la forêt qu'on lui avait renseignée la veille. Et ce, sans avoir dormi. Vous imaginez bien qu'après tout ça, il sera sans doute plus ronchon que jamais.
Moi, j'ai une envie de brandir le poing vers le ciel, mais je peux même pas.
Mais notre brave Yvan n'était pas le seul à être réveillé en cette aube tautive, voyez-vous. Oui, car un peu plus loin de là, dans la tour de la milice de cette ville capitale, de ce royaume, etc., etc., le capitaine Prinkles passait en revue ses troupes. Oui, le capitaine Prinkles, voyez-vous. Le capitaine de la milice, oui, car souvenez-vous, quand le capitaine von Pruten fut tué par un monstrueux blob pustuleux, hein, il fallut lui trouver un remplaçant et ce fut son second Prinkles qui prit sa place. Eh oui, et il exerce d'ailleurs ce métier relativement pas trop mal, hein. Et donc, ce matin-là, comme je vous disais, il passait en revue ses troupes, en l'occurrence ses sergents, hein, pour demander un rapport à l'équipe chargée de la sécurité pendant la célébration du retour du roi qui avait lieu la veille.
Cela s'est passé sans problème, capitaine. Le peuple a bu, chanté et dansé, mais aucun incident n'a été à déplorer. Oh, on a bien eu une tentative d'incursion d'un mendiant manchot suspect, mais je l'ai vaillamment repoussé. Merci, merci.
Bien, sergent, beau travail. Et de votre côté, Barnabé, comment avance l'enquête sur ce tueur qu'on nomme P parce qu'il grave cette lettre sur le front de sa victime?
On sait que c'est une personne, ça on en est à peu près sûr, hein, les gars? Et donc, cette personne tue des gens, et puis aussi, elle grave la lettre P sur leur front aussi, tout ça, quoi.
L'enquête piétine, c'est ça?
Oui.
Vous n'avez donc rien appris de nouveau?
Si je peux me permettre, chef, si le tueur grave la lettre P, c'est qu'il sait écrire, il faudrait faire le tour des écoles et demander la liste des anciens élèves, non?
C'est quoi une école?
Et c'est alors qu'un messager entra précipitamment dans la pièce.
Oui, allô?
Alerte! Alerte! P a fait une nouvelle victime cette nuit! Un soldat a été retrouvé mort au château, venez vite!
J'y vais, capitaine!
Avez-vous les dossiers des victimes précédentes, Barnabé?
Oui, capitaine! Regardez, je les ai bien rangés, hein! Une couleur pour chaque victime! Comme ça fait comme un petit arc-en-ciel! C'est joli, hein? Hein?
C'est très bien, sergent Barnabé! Tenez, prenez ce crayon de couleur et allez me dessiner un beau portrait robot du tueur!
Fic!
Moi, je vais reprendre cette affaire en main. Elle prend beaucoup trop d'ampleur. Qu'on me prépare une voiture. Je lirai les dossiers en me rendant au château.
Et au château, puisqu'on en parle, le roi, dans sa fastueuse chambre, se réveillait paisiblement dans ses draps soyeux alors qu'accouraient ses serviteurs, œuvrant à l'aider en cette première journée de second règne, en lui apportant notamment un merveilleux petit déjeuner au lit.
Bonjour, sire. Voici votre petit déjeuner, comme vous l'aimiez autrefois.
Hein? Oui.
Par contre, je vais ouvrir la fenêtre. Il y a comme une drôle d'odeur de décomposition ici. C'est bizarre.
Ça doit venir de moi, je pense.
Et c'est là une senteur virile et fortement inspirante, votre majesté. N'est-ce pas, Gabriella?
Laissez cette fenêtre, ne le vexez pas.
Oui, ça sent très très bon.
C'est quoi à manger alors? Des fruits, du pain et un bol de lait chaud. Allez savoir pourquoi, mais je me sentirais plutôt comme une envie de viande. Comme des tripes ou de la cervelle peut-être, pourquoi pas, non?
Je vous fais monter cela tout de suite, sire.
Oh, mon nez vient de tomber dans le bol de lait.
Bravo, sire, votre visage paraît tellement plus jeune sans nez.
Bon. Un peu plus en avant, dans la matinée, notre cher ami Yvan arrivait à l'orée de la forêt qu'il cherchait. Son voyage s'était passé sans accroc, outre sa grande fatigue, et un mystérieux sombre carrosse qu'il croisa, avançant lentement vers la ville, mais dont l'imposante envergure le poussa hors du sentier, dégringolant de fête dans un petit ruisseau qui se trouvait là, ce qui le rendit plus radieux que jamais.
Sombre, agité, comment j'aurais pu retrouver mon équilibre quand ce carrosse m'a bousculé, hein?
Il erra ensuite quelque temps entre les arbres, jusqu'à finir par trouver une vieille cabane en bois perdue en pleine forêt, non loin de la rivière. Le petit filet de fumée qui filait hors de la cheminée lui fit comprendre qu'elle était habitée. Aussi alla-t-il à la porte frapper.
Ça va pas la tête? C'est quoi ces façons de donner des coups de pied dans ma porte? Vous pouvez pas frapper comme tout le monde? Et qu'est-ce qu'il veut d'abord?
Je cherche mon frère, il a disparu il y a un mois, et puis...
Et à quoi il ressemble, votre frère?
Il est bûcheron, il était venu couper du bois dans le coin, et puis...
Ah, ce gros porc, oui, je m'en souviens. La dernière fois que je l'ai vu, il se cachait bêtement dans les buissons là-bas.
Ah bon, ceux là-bas?
Oui, il y en a pas des milliers, hein. Bon, il s'en allait ou il voulait qu'on l'y conduise en lui tenant la main? Mais pourquoi ce sont toujours des connards qui viennent me voir et jamais des beaux garçons? J'en ai marre!
Les oreilles encore bourdonnantes du claquement de la porte, notre cher Ivan se rendit donc à l'endroit indiqué. De son côté, le capitaine Pringles était arrivé au château. Le chef de la garde l'avait renseigné sur les événements, ne manquant de lui montrer le corps mutilé du pauvre soldat mort au cours de la nuit. Il termina son entretien avec le milicien en lui présentant le ministre Gonzague, qui s'avérait être la dernière personne à avoir vu la victime en vie.
Selon vous, monsieur le ministre, qui aurait pu vouloir la mort de ce soldat?
Je n'en ai aucune idée, je ne lui connaissais pas d'ennemi, vous savez.
Je vous rappelle qu'il s'agit d'une enquête milicienne, monseigneur, pas d'une simple discussion. Dites-moi toute la vérité, qui aurait voulu sa mort?
Absolument tout le monde, capitaine, c'était un wesh. Moi-même, il m'est souvent arrivé de me rêver l'empalant sur un cactus tant ses paroles m'irritaient. Mais de là à passer à l'acte...
Je comprends, j'espérais seulement que ça m'ouvrirait une piste quant à l'identité de ce mystérieux tueur qu'on nomme P. Qu'est-ce qui peut bien le relier aux victimes? 6 morts à ce jour. D'abord, il tue les 4 anciens gardes de la fille du roi, puis...
Vous dites?
Oui, ces anciens guerriers que le roi avait il y a longtemps nommés gardes personnels de sa fille.
Ceux qui lui sont restés fidèles après son accident?
Ceux-là même, oui. Ils ont été tués un par un en l'espace de quelques jours. Et ensuite a eu lieu le meurtre de Chambranle, le scribe attitré du régent.
Ce cher Gustave est mort lui aussi. Je n'étais pas au courant.
Avant-hier soir, si. Et à présent, ce soldat. Mais qu'est-ce qui pourrait bien relier vos amis aux gardes?
Vous êtes certain que c'est le même tueur? Ne pourrait-ce être une imitation, non?
C'est exclu. Certains détails typiques de son mode opératoire sont visibles sur les corps du scribe et du soldat. Des détails qui n'ont d'ailleurs pas été révélés aux crieurs publics.
Ah bon? Lesquels?
Eh bien, le vrai P pratique la sodomie post-mortem sur sa victime.
Oh,
vous allez bien, ministre? Vous êtes tout pâle?
Eh bien, capitaine, il se pourrait que je connaisse le lien entre tous les meurtres sur lesquels vous enquêtez.
Comment ça? Parlez!
Comprenez avant tout que cela concerne une opération d'État complètement secrète et peu reluisante et que votre silence sur ce qui va suivre est absolument indispensable.
Je suis le capitaine de la milice, Sieur Gonzague. Parlez sans crainte.
Voyez-vous, toutes les personnes mortes sous la main de ce P, ainsi que moi-même, le régent et une certaine personne venue de très loin, nous sommes tous liés à un assassinat, celui de la princesse.
La fille du roi, celle qui est morte dans son coma le mois dernier?
Absolument, elle était en voie de se réveiller et ses inclinaisons guerrières auraient précipité le royaume dans le chaos. Aussi a-t-il fallu se contraindre à l'éliminer pour sauvegarder la paix.
Je comprends, c'est pas joli, mais personne ne vous en aurait voulu pour ça, excepté le tueur, manifestement.
Serait-ce donc pour venger la princesse de ses meurtriers et punir l'inefficacité des gardes qu'il grave un P sur le front de ses victimes, P comme princesse donc
Possible, allez savoir. Le fait est que vous et l'ancien régent êtes donc maintenant en danger si vous avez fait partie de l'opération.
Oui, j'avais deviné, d'où ma confidence.
Je vais vous mettre sous protection milicienne le temps de coincer P. Venez, allons retrouver l'ancien régent. Après quoi, vous me suivrez tous les deux dans la tour de la milice. Et en chemin, il faudra que vous me parliez de ce mystérieux voyageur qui vous accompagnait. Est-il suspect, selon vous?
Non, absolument pas. Il vient d'un monde dépourvu de magie et ne pourrait venir en le nôtre de sa seule initiative. Je crains, capitaine, d'ignorer complètement qui peut être réellement ce P.
« Revenons à présent dans les bois pour retrouver Yvan, alors qu'il découvre près d'un groupement de buissons et recouvert de quelques feuilles mortes, un tas de vieux vêtements trempés par la rosée. Il les reconnaît immédiatement, oui, ce sont ceux de Frédéric. En un sens, il est heureux parce qu'il sent qu'il approche, hein, que son enquête porte ses fruits et qu'il a finalement peut-être un peu de cervelle. Hein. Mais en même temps, c'est plutôt inquiétant parce que ces vêtements sont manifestement là depuis quelques semaines. Et comment se fait-il qu'il soit resté là à l'abandon ? Son frère ne les aurait pas abandonnés là et serait pas parti à poil. Hein, enfin, encore que bon, étant alcoolique, oui, c'est possible. Mais peu probable, néanmoins, parce que bon, on disparaît pas des semaines à poil comme ça, ça se fait pas. Hein. Même quand on est beurré, on fait pas ce genre de choses. Ça peut durer une heure ou deux, mais on reste pas des semaines comme ça. Hein.
Encore qu'avec Fred, on sait jamais. Hein.
Bref, comme cela se passe juste à côté de la rivière, il en conclut que peut-être que son frère aura voulu aller nager, et qu'il a donc pour ce fait retiré ses vêtements, et que peut-être, voilà, il s'est endormi dans l'eau et que le courant l'a emporté plus loin, loin de ses affaires, et qu'il aura été recueilli par on ne sait qui, ou peut-être même au pire qu'il se sera noyé, allez savoir.
En fait, ce qu'il boit, il a pas l'habitude de l'eau en plus.
Mais, à ce moment précis, un petit mouvement se fit entendre et sentir dans un fourré, juste à côté de notre ami Yvan. Il sursauta et regarda en direction du dit assemblage végétal en se demandant ce qui allait en sortir. Et quelle ne fut pas sa surprise, chers auditeurs, lorsque la chose, la créature qui sortit des fourrés, n'était en fait rien d'autre qu'une autruche. Oui, une autruche qui se tenait là, devant lui, manifestement souffrant de quelques plaies de contusion, mais néanmoins, bien là, devant lui, et semblant tout agitée comme essayant de communiquer avec lui. Vous pensez bien que notre pauvre Yvan ne comprit absolument rien ce qui lui arrivait.
Bon, oui, j'avoue.
Aussi complètement paniqué, il s'enfuit à toutes jambes, j'allais dire en agitant les bras, mais non, il peut pas. Et donc, à toutes jambes, donc, en courant vers la rivière, en s'efforçant de la traverser, en espérant que l'autruche, effrayée par l'eau, ne le suivra pas. Autruche qui d'ailleurs, oui, ne le suiva pas, mais resta néanmoins sur la rive, s'agitant, criant, comme essayant de lui parler. Mais ça passait complètement au-dessus de la tête de notre pauvre Yvan, qui était complètement paniqué, qui continuait de courir à toutes jambes dans l'eau, pour essayer de sauver sa petite vie d'une éventuelle agression d'un oiseau sauvage, vous comprenez ? Mais, fût-ce par maladresse ou par simple accident, encore que c'est la même chose, mais on s'en fout, notre pauvre Yvan glissa sur un rocher lisse et humide, et tomba la tête la première, ne pouvant se retenir, car n'ayant pas de bras, je vous le rappelle, son crâne s'éclatant comme une noix de coco sur un rocher pointu et coupant qui se trouvait là, le tuant sur le cou, alors que des morceaux de sa cervelle étaient lentement emportés par le courant, sous les yeux consternés d'une autruche désormais silencieuse. Autruche qui d'ailleurs, non seulement était devenue silencieuse, mais semblait exprimer comme, c'était bizarre, une légère tristesse alors qu'elle regardait en direction du cadavre du pauvre Yvan. Et alors qu'elle était là comme un deuil à se lamenter en silence, quelque chose s'est produit. Oui, le cadavre d'Yvan, soudain, remua. L'autruche observa la scène, pensant avoir rêvé, mais non, un autre mouvement confirma qu'elle avait bien vu ce qu'elle avait vu. Le corps d'Yvan bougeait. Alors que sa cervelle était à moitié hors du crâne, ça n'a pas de sens, c'est impossible. Et pourtant, il était là, en train, même carrément en train de se relever lentement, là, le crâne complètement ouvert. Son corps se relevait. Il resta là un petit moment, sous les yeux complètement éberlués de l'autruche, figé, debout, l'air hagard, bavant presque même, c'était bizarre. Et puis au bout d'un moment, il commença à tourner la tête et à regarder dans une certaine direction. Il semblerait que ce soit vers la ville capitale de ce royaume qu'il regardait. Et là, d'un seul coup, il se mit à marcher, vers cette direction, titubant, gênant, manquant de se gameler plusieurs fois, mais néanmoins persistant. Allez savoir pourquoi, peut-être l'avenir nous le dira-t-il, mais l'autruche décida de suivre Yvan. La journée se terminait, et le soleil une nouvelle fois décliné, l'obscurité gagnant peu à peu le paysage. Et alors que tout cela se produisait, devant le palais royal de la ville capitale de notre royaume qui est lointain sans l'être, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais plus encore vraiment l'Antiquité, etc., etc., un étrange et sombre carrosse que vous connaissez à présent bien approchait lentement de l'entrée du château. De ce massif carrosse qui semblait presque être fait de roche, une étrange vapeur orange s'échappait, plongeant dans l'évanouissement tous les gardes qui s'en approchaient en hurlant, rien ne pouvant donc stopper sa progression. Le carrosse s'arrêta, un escalier se déplia, et à son mystérieux cocher encapuchonné et sombre et sans visage, de les descendre une à une avant de franchir l'entrée.